VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manelakiza à la présentation de cette édition du mercredi 14 avril 2021. Voici le sommaire. En RDC, début de la vaccination lundi contre le Covid-19. Au Niger, une vingtaine d'enfants ont été calcinés dans l'incendie de leur école à Niamey. Le président somalien a signé une loi prolongeant de 2 ans son mandat qui a expiré. Washington et ses alliés de l'OTAN préparent le retrait coordonné de leurs troupes d'Afghanistan. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Bénin, le président Patrice Talon a durci le ton mercredi au lendemain de sa réélection avec plus de 86% des voix. Il a promis de poursuivre et de punir les responsables des violences préélectorales qui ont éclaté dans le centre du pays, fief de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Des manifestants avaient dressé des barrages sur les routes principales, coupant la circulation du sud vers le nord. Ils dénonçaient l'absence d'une opposition crédible au scrutin de dimanche et ont été délogés par les forces de l'ordre. La force anti-djihadiste française au Sahel, Barkhane, n'est pas enlisée mais devra évoluer au fur et à mesure de la montée en puissance de ses partenaires, estime un rapport parlementaire publié mercredi. La stabilisation du Sahel prendra de nombreuses années et l'honneur de la France serait de rester engagée aussi longtemps qu'il le faudra. Mi-février, lors d'un sommet à N'Djamena avec ses partenaires du G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron avait annoncé ne pas souhaiter réduire dans l'immédiat les effectifs de Barkhane. Au Niger, des dizaines de parents, de proches et d'enseignants étaient toujours choqués mercredi au lendemain de l'incendie qui a tué une vingtaine d'enfants de 3 à 5 ans d'une école du quartier Pays-Bas de la capitale Niamey. Les précisions de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Sur les 20 élèves décédés, 19 sont du préscolaire âgés donc de moins de 6 ans. Ils ont été piégés par le feu dans leur classe toute faite de paillotes. Colonel Sidi Mohamed, commandant du groupement des sapeurs-pompiers de Niamey.
Il s'agit à peu près de 21 classes en paillotes. Quand vous regardez la configuration du terrain et là où les places sont implantées dans une rue, le tirage était très fort et le pouvoir calorifique du feu était énorme, ce qui a permis rapidement l'embrasement généralisé de ces classes-là et malheureusement, les enfants n'ont pas pu sortir.
L'origine du feu n'est pas encore déterminée. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou s'est rendu sur les lieux pour soutenir les parents et les rassurer de l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes. Depuis ce mercredi matin, la police scientifique et celle judiciaire sont sur les lieux. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
L'émissaire des Nations Unies en RDC a rencontré mercredi l'ex-président Joseph Kabila, mis à l'écart par son successeur Félix Tshisekedi, avec la fin de leur coalition au pouvoir. Bintou Keïta est arrivé mardi dans le cadre de sa mission de bons offices auprès des acteurs de la vie nationale congolaise, a indiqué son bureau sur Twitter. La rencontre a eu lieu dans une propriété de M. Kabila, près de Lubumbashi. Toujours en République démocratique du Congo, après plusieurs reports, c'est finalement lundi que sera lancée la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le couvre-feu est partiellement levé dans le pays. Les détails avec Eddy Issango.
La vaccination sera volontaire et la priorité sera accordée au personnel soignant, a indiqué le ministre de l'Intérieur sortant, Gilbert Kankondé, au terme de la réunion de la Task Force pour la lutte contre le Covid-19. Les personnes vulnérables souffrant des maladies chroniques ainsi que les personnes exposées à un flux important dans l'exercice de leur travail sont aussi concernées. Ce sera le vaccin d'AstraZeneca, objet d'une certaine méfiance, qui sera administré. La RDC a reçu 1,7 million de doses dans les cadres du programme COVAX. Les autorités ont dû reporter les débuts de la campagne de vaccination après des cas de décès par thrombose enregistrés dans plusieurs pays d'Europe. Des théories de complot sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux et renforcent la méfiance des populations. Des parents avaient même retiré leurs enfants des écoles dans plusieurs provinces suite à des rumeurs d'une vaccination forcée. Les couvre-feux est levé dans toutes les provinces et il est allégé à Kinshasa, la capitale.
Le premier ministre soudanais a invité ses homologues égyptiens et soudanais à un sommet tripartite pour discuter du méga barrage sur le Nil. Le Soudan et surtout l'Égypte voient ce barrage en cours comme une menace pour leurs ressources et en eau. L'Éthiopie a encore affirmé la semaine dernière sa détermination à poursuivre son projet malgré le vif contentieux. En Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a signé une loi prolongeant de 2 ans son mandat qui a expiré en février, aggravant la crise politique dans ce pays, n'est-ce pas, Claire-Marie Gibord?
Ce matin, sur les antennes de radio Mogadiscio, l'annonce a été faite. Le chef de l'État somalien a promulgué lundi la résolution spéciale sur les élections, après son adoption à l'unanimité par le Parlement. Les États-Unis ont aussitôt mis en garde contre cette résolution, considérée comme une menace pour le fragile équilibre politique du pays. Le président du Sénat somalien a également jugé inconstitutionnel ce texte voté par la Chambre basse, qui aurait dû passer devant la Chambre haute pour être promulgué. Cette nouvelle loi prévoit l'organisation d'élections d'ici 2023, avec un retour au principe du « un homme, une voix », mais l'organisation d'un tel scrutin achoppe sur de multiples désaccords politiques et sur des raisons sécuritaires. Depuis la fin de son mandat, le président Farmajo est jugé illégitime par l'opposition et la communauté internationale a multiplié les appels à la tenue d'élections le plus rapidement possible.
Toujours en Somalie, au moins 15 civils ont été tués mercredi lorsque leur minibus a été détruit par l'explosion d'un engin dissimulé sur la route. Le porte-parole du gouvernement a accusé les islamistes et radicaux Shebab d'être responsables de la tragédie. L'OMS s'est dit inquiète mercredi d'une possible aggravation de la pandémie de Covid-19 durant les célébrations du Ramadan en Afrique du Nord et au Grand Moyen-Orient. Le docteur Ahmed Al-Mandari, directeur du bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, a estimé que la situation dans cette vaste région qui va du Maroc au Pakistan traduit une tendance inquiétante.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé aujourd'hui aux alliés de l'OTAN que l'heure est venue de préparer un retrait coordonné des troupes présentes en Afghanistan. Le point avec Rosine Munezer.
Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés et maintenant il est temps de ramener nos forces à la maison. Le président Joe Biden va en parler, a-t-il annoncé à son arrivée au siège de l'OTAN pour une réunion en visioconférence avec ses homologues et les ministres de la Défense des 30 pays membres de l'Alliance. Joe Biden souhaite voir achever ce retrait le 11 septembre, le jour du 20e anniversaire des attentats de 2001, malgré les craintes d'un retour en force des talibans. La tenue de cette réunion et son format ont pris de court la plupart des alliés, selon des sources diplomatiques. Certains ministres seront absents, notamment le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, en visite officielle en Inde. Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, sont arrivés hier à Bruxelles pour cette réunion exceptionnelle qui doit également traiter des tensions avec la Russie en Ukraine et sur l'accord nucléaire avec l'Iran.
En Haïti, le gouvernement a présenté sa démission et un nouveau premier ministre a été nommé. Le président Jovenel Moïse précise que ce changement vise à s'attaquer au problème de l'insécurité dans le pays. Nathalie Barche.
Le nouveau premier ministre est Claude Joseph, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il remplace Joseph Jout, président du Conseil supérieur de la police, qui s'est révélé incapable de faire face à l'insécurité. Le chef de l'État a nommé 6 premiers ministres en 4 ans. Jovenel Moïse, objet d'une forte contestation, estime que son mandat prendra fin en février 2022, tandis que l'opposition affirme qu'il s'est achevé le 7 février dernier. Monsieur Moïse a été élu à l'issue d'un scrutin annulé pour fraude, puis réélu un an plus tard. En l'absence de parlement, le président gouverne par décret. Haïti, pays le plus pauvre du continent américain, est gangréné par l'insécurité. Dimanche, 10 personnes ont été enlevées, dont 5 religieux haïtiens et 2 Français près de Port-au-Prince. En février, plus de 400 détenus se sont évadés d'une prison en banlieue de la capitale, une opération au cours de laquelle 25 personnes ont été tuées, dont le directeur de l'établissement.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Claire Morin-Gibourg.
Au Togo, la session inaugurale du Haut Conseil pour l'emploi des jeunes a été lancée hier par la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé. La plateforme Leling a été présentée. Cet outil numérique, disponible sur le web et sur les mobiles, veut mettre en lien les jeunes et les employeurs, mais aussi présenter des conseils d'orientation, de formation et d'insertion professionnelle. Ecobank Cameroun a lancé Élevé, un programme destiné à accompagner et stimuler les entreprises dirigées par des femmes ou orientées sur les femmes en leur proposant des solutions financières. Les PME représentent 90% des sociétés sur le continent et un tiers ont une femme à leur tête. Si une femme sur 4 en Afrique a créé ou dirige une entreprise, elle ne bénéficie pas d'un accès égal aux services financiers, selon Ecobank, qui estime leur déficit de financement à 42 milliards de dollars, d'où la création de ce programme. En Chine, l'entreprise du numérique Alibaba s'est vue infliger samedi une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante. Un montant qui représente 4% de son chiffre d'affaires de 2019. Les régulateurs ont épinglé le groupe sur des pratiques commerciales jugées déloyales, notamment l'exclusivité imposée aux commerçants pour vendre leurs produits sur ces plateformes au détriment des sites concurrents.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaîtra ce soir les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions en Europe. Battus 2-1 au quart de finale aller, Dortmund espère quand même éliminer Manchester City, mais les Citizens sont en Allemagne pour gagner, a averti Pep Guardiola. Dans l'autre quart de finale retour, défaite 3-1 à l'aller, Liverpool veut garder un peu de magie dans son mythique stade d'Anfield pour empêcher Zinedine Zidane de hisser son Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions pour la 4e fois en 5 participations. Comme à l'aller, le Real joue sans son capitaine Sergio Ramos, le défenseur espagnol actuellement blessé au mollet gauche et déjà forfait pour le quart de finale retour à Liverpool, a été testé positif au Covid-19. Ramos est le 2e cas de coronavirus détecté au sein de l'effectif du Real Madrid en une semaine après le test positif de Raphaël Varane la semaine dernière. Hier, même battu 1-0 par le Bayern Munich, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales pour la 2e année d'affilée après l'exploit de l'aller 3-2, déjà auteur d'une grosse prestation à l'aller. Le Sénégalais Idrissa Ganagé a encore été l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain au match retour à Paris, au point d'être qualifié de machine par son entraîneur Mauricio Pochettino. Même scénario pour Chelsea, battu par Porto 1-0, mais qualifié. Les Lions indomptables n'iront pas à Tokyo pour l'épreuve de football féminin aux Jeux Olympiques. Après sa défaite 2-1 face au Chili lors du match aller de barrage disputé sur terrain neutre à Antalya, en Turquie, le Cameroun s'est contenté d'un match nul 0-0 au match retour. Les protégés d'Alain Diomfa sont donc éliminés. La Zambie restera l'unique représentante africaine dans l'épreuve féminine. Pour rappel, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Égypte représenteront l'Afrique chez les hommes. NBA, Brooklyn, porté par un Kevin Durant, rejoint Philadelphie en tête à l'Est, pendant que Utah, leader à l'Ouest, renoue avec la victoire. Bagassi Koura.
Oui, Kevin Durant, auteur de 31 points, a été déterminant dans la victoire des Nets chez les Timberwolves 127-97 dans ce match prévu lundi, mais reporté après la mort d'un jeune homme noir lors de son interpellation dimanche près de Minneapolis. Les Nets défient Philadelphie cette nuit dans un duel au sommet à l'Est. De son côté, Utah n'a pas laissé de place au doute face à Oklahoma City, battu 106-96. Paul George a amené les Clippers à la victoire chez les Pacers, 126-115. Les Clippers solidifient leur troisième place à l'Ouest où leurs rivaux, les Lakers, restent cinquième après leur victoire à Charlotte, 101-93.
Merci, Bagasipura.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le président béninois Patrice Talon a été réélu sans surprise avec 86% des voix selon les résultats provisoires annoncés mardi soir par la commission électorale. Dans ce scrutin, M. Talon faisait face à des candidats de l'opposition quasiment inconnus. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Patrice Athanase Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, suffrage exprimé 1,984,832, pourcentage 86,36%.
Le duo Patrice Talon et Mariam Talata obtient dès le premier tour la majorité des suffrages exprimés, a déclaré Geneviève Bokonadjo, la vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Elle a également déclaré que le taux de participation s'élevait à 50,17%. Ce faible taux de participation pourrait être lié au climat de peur instauré par les manifestations violentes qui ont eu lieu juste avant le scrutin. Et lors d'une sortie médiatique, le ministre de la Justice a su que les coupables seront identifiés et punis et que cela ressemble à un coup bien monté pour décrédibiliser l'élection du 11 avril dernier. Séverin Kenom, ministre de la Justice.
Nous avons le sentiment que c'est fait à dessein. Quelqu'un qui entreprend de frauder, quelqu'un qui entreprend de manipuler le vote ou les résultats du vote et qui se laisse filmer ostensiblement. Ne le fait pas pour les résultats du vote, mais le fait plutôt pour la communication et pour l'image.
Un taux de participation assez faible qui montre que certains ont répondu à l'appel au boycott lancé par l'opposition. Parmi ceux qui ont décidé de rester chez eux, certains pensent que le chef de l'État n'a pas voulu d'une compétition.
Je ne suis pas allée voter parce que depuis, disons, un an, l'actualité nationale ne m'intéresse plus. J'ai constaté que le pays est dirigé par une personne qui n'aime pas la compétition.
Non, je n'ai pas pu voter. Principalement parce que je n'ai pas retrouvé mon nom sur la liste, en fait.
Interrogé sur les violences qui ont jalonné le processus électoral, le ministre porte-parole du gouvernement a indiqué que ces actes ont été orchestrés dans le but de mettre à mal la démocratie.
C'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes.
Depuis l'annonce des grandes tendances par la commission électorale, aucune réaction n'a été enregistrée au niveau des deux autres candidats. Les observateurs parlent d'une élection sans engouement, sans ferveur.
Il n'y a pas eu grand monde, il n'y a pas eu du tout d'affluence. Le peuple n'est pas du tout sorti pour voter. Et je trouve que c'est dommage. Ça va servir une leçon aux hommes politiques.
Quelques membres de l'opposition, à travers des communiqués sur les réseaux sociaux, ont appelé à la réconciliation. C'est le cas de Komi Koutché qui demande au président de la République de convoquer une assise nationale afin de permettre à toute la classe politique de contribuer au développement national. Mais pour Patrice Talon, cela n'a pas de sens.
Est-ce que tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent à faire? Ben, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des assises. Il est évident que dans la vie d'une nation, éternellement, il y aura des contestations.
De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors du coup d'État de 1987 qu'il a porté au pouvoir. Le dossier a été envoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les 12 accusés, dont messieurs Compaoré, 34 ans après la mort du père de la révolution burkinabé. Ils sont accusés d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Pour une réaction, Yacouba Ouédraogo a joint à Washington DC Paul Sankara, frère aîné du président Thomas Sankara.
Après plus de 3 décennies, on voit quand même le bout du tunnel. Il y a là comme un début de justice qui a sonné. Ce n'est pas la chasse aux sorcières, ce n'est pas l'accusation gratuite. Il y a des charges qui ont été approuvées par le tribunal militaire. Donc oui, ça nous amène à souffler un peu.
On le sait, le dossier a été rouvert après l'insurrection. La tombe désignée comme étant celle de Thomas Sankara, les restes ont été analysés, mais jusque-là, ça n'a pas encore été établi que c'est véritablement CRS. Qu'est-ce que ça vous fait tout cela?
C'est dur pour ceux qui ont été au lieu d'exhumation, mais des fois, il faut un peu d'amertume pour aboutir à vérité et justice, bien entendu. J'espère que chacun aura le courage de répondre et de donner sa version, d'expliquer les choses de manière à ce que l'histoire quand même soit nourrie pour les générations, les jeunes générations actuelles et les générations futures.
Blaise Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire où il a acquis la nationalité ivoirienne et donc pas sûr que la Côte d'Ivoire accepte l'extrader. Même si le procès se tenait sans sa présence, ce serait un soulagement pour vous?
Le mieux serait que lui qui a été le Blaise Compaoré, la personne cité en premier lieu et qui a dirigé le Burkina Faso pendant une trentaine d'années, soit physiquement présent pour s'expliquer, pour donner sa version, de manière à ce que les uns et les autres soient édifiés. Maintenant, c'est pour une raison ou pour une autre, lui-même ne souhaite pas être au procès. Je pense qu'on fera ça, mais l'histoire retiendra en tout cas son geste. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait une volonté manifeste de l'accabler sans qu'il y ait un jugement normal avec les avocats et témoignant juste sa défense. Quant à la citoyenneté acquise en Côte d'Ivoire, donc après avoir dirigé le Burkina Faso une trentaine d'années, subitement on devient, par le truchement de son épouse, ivoirien. Je ne crois pas que ça lui fasse grand honneur, quoi. En plus, homme de tenue qu'il a été dans sa formation, il y a la parole d'honneur, il y a l'homme de tenue un minimum de courage. Et ce serait bien dommage tout cela, que ça se fasse en son absence.
Maintenant, il appartient à la justice militaire de programmer une audience. Est-ce que vous restez confiant et vous continuez à faire confiance à la justice burkinabé?
Sans aucun doute. Il y a peut-être la lenteur due au fait que le dossier lui-même a ses différentes implications, mais je dis simplement que si on a pu attendre une trentaine d'années, ce n'est pas quelques mois de plus que l'on ne saura avoir la patience et la confiance en la justice. Voyez-vous, ce n'est qu'à partir de 2014, l'insurrection donc de 30 et 31 octobre, que finalement une issue s'est développée par rapport au dossier Sankara, parce que durant la trentaine d'années du régime Compaoré, il était hors de question.
Paul Sankara, frère aîné du président Thomas Sankara.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, l'activité économique a progressivement repris le long de leur frontière avec le Nigeria, malgré la présence continue d'un groupe terroriste Boko Haram. Les marchés ont rouvert et les commerçants des deux pays font savoir que voyager dans la zone frontalière est désormais plus sûr, grâce à une forte présence militaire. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis la ville frontalière d'Amchid au Cameroun. Le récit est signé Mohamedou Oumfa.
Oumar Oufoumane, 40 ans, vendeur de carburant, observe que la vie revient progressivement à la normale à Amchidé, à la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria. Selon lui, de nombreux marchands sont entrés au Cameroun depuis le Nigeria avec des appareils électroniques, des pièces automobiles et de la nourriture à vendre.
Ce n'est pas dans toutes les zones de la région qu'il y a les stations mobiles. Le prix du super, par exemple, coûte 654 environ, pendant que le prix des oiseaux est à 350.
Séni Lamine Boukar est le dirigeant et maire de Kolofata à la frontière avec le Nigeria. Boukhar et 5 membres de sa famille ont été enlevés par des combattants de Boko Haram en 2014 et relâchés au bout d'une semaine. Selon lui, les affaires prennent à Kolofata et les éleveurs ont recommencé à fréquenter le marché de bétail. Il note tout de même qu'il y a toujours un problème de sécurité.
La première chose à faire est de nous aider à finaliser les actions de sécurité et aussi à dynamiser les activités commerciales. Amchide est un grand carrefour commercial avec des gens venant de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et ainsi de suite.
Les défenseurs des droits humains sont aussi préoccupés par la sécurité à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Ilaria Allegrosi est chercheuse pour Human Rights Watch en Afrique centrale.
La situation sécuritaire reste extrêmement instable et la violence continue de faire fuir les gens. Par exemple, à la suite de l'attaque de Boko Haram le 8 janvier à Mozogo, des centaines de personnes ont quitté leur domicile pendant plus d'un mois.
La chercheuse de Human Rights Watch propose de renforcer le dispositif sécuritaire tout en veillant au respect des droits de l'homme par les militaires.
Il faut faire plus pour protéger efficacement les civils dans la région de l'extrême nord, notamment en renforçant la présence militaire et les patrouilles, tout en veillant également à ce que les soldats respectent les droits de l'homme.
Boko Haram se bat depuis 11 ans pour créer un califat islamique dans le nord-est du Nigeria. Les combats qui ont débordé au Cameroun, au Tchad et au Niger ont fait près de 30 000 morts et environ 2 millions de déplacés.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs États américains ont suspendu l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus. 6 personnes qui ont reçu des injections ont développé de rares caillots sanguins. Une personne en est morte et une autre est dans une situation critique. Plusieurs pays ont aussi suspendu l'administration du vaccin AstraZeneca après avoir signalé qu'il pourrait être lié à des caillots sanguins. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison Blanche, fait le point. Le récit avec Rosine Mounedze.
Les agences fédérales de la santé ont appelé mardi à la suspension du vaccin Johnson & Johnson. 6 femmes ont développé des caillots sanguins 6 à 13 jours après leur vaccination. Une d'elles est décédée d'une thrombose sanguine et une autre se trouve dans un état critique. Les États de New York, du Connecticut, du Nebraska et l'Ohio ont ordonné la suspension immédiate du vaccin Johnson & Johnson. Près de 7 millions de doses de ce vaccin ont été administrées ici aux États-Unis, ce qui rend le risque inférieur à 1 sur 1 million selon les centres de contrôle et prévention des maladies. La Maison-Blanche affirme que la pause a été décidée par mesure de précaution et n'aura pas un impact significatif sur la campagne de vaccination aux États-Unis. Jeff Zients est coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison-Blanche.
The J&J vaccine makes up less than 5%.
Le vaccin Johnson & Johnson représente moins de 5% de presque 200 millions de doses administrées aux États-Unis.
L'administration Biden affirme que les États-Unis ont obtenu suffisamment de doses de Pfizer et de Moderna pour 300 millions d'Américains et vont continuer d'administrer en moyenne un peu plus de 3 millions de doses par jour. La suspension du vaccin Johnson & Johnson pourrait effrayer ceux qui hésitent déjà à se faire vacciner, soit environ 20% des Américains selon les sondages. Il sera également plus difficile d'atteindre les communautés mal desservies car c'est le seul vaccin à dose unique utilisé aux États-Unis et il n'est pas nécessaire de le conserver à des températures ultra froides. Jeffrey Kahn est directeur de l'Institut Berman de bioéthique à l'Université Johns Hopkins.
Pensez aux populations de sans-abri où il est très difficile de retrouver ces gens une deuxième fois. Ainsi, si vous vous envoyez des cliniques mobiles dans certaines populations, il est très difficile de retrouver ces gens à deux reprises. Et donc, un vaccin à dose unique est un excellent outil pour ce type de vaccination.
Par ailleurs, plusieurs pays ont suspendu le vaccin AstraZeneca ou ont arrêté de le donner aux jeunes en raison du danger de formation de caillots sanguins. William Schaffner est professeur de santé publique à l'école de médecine de l'université Vanderbilt.
The J&J vaccine and the AstraZeneca vaccine are made in very similar ways.
Le vaccin Johnson & Johnson et le vaccin AstraZeneca sont fabriqués de manière similaire, différente de Moderna et Pfizer. Et bien sûr, l'une des questions est la suivante. Si ces caillots sanguins sont liés à ces vaccins, quelle est la particularité de ces vaccins qui pourraient induire cette coagulation sanguine? Nous ne connaissons pas encore les réponses, mais cela fait partie de l'enquête.
Ces problèmes avec AstraZeneca et Johnson & Johnson compliquent les campagnes de vaccination en Europe et ailleurs. L'Union européenne en avait commandé 200 millions de doses. Par contre, le Canada qui a acheté 10 millions de doses a obtenu ses commandes, dont les premières livraisons sont prévues à la fin de ce mois.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Claire-Joseph, Joselle Morissin et Lionel Lunamira-Gahima. Merci à toute l'équipe de la rédaction également. Eric Manirakiz a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée.